Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio. Je suis très heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bienvenue dans notre balade musicale consacrée à deux nouveautés du disque absolument fascinantes. Nous serons en duplex avec un formidable pianiste de jazz, Paul Lai. Nous parlerons de son nouvel album, un hommage au grand pianiste Bill Evans et du concert qu'il donnera le jeudi 8 décembre au Théâtre de la Scala à Paris. Mais tout de suite, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans notre studio d'IDFM Radio Bruno Procopio, claveciniste, chef d'orchestre et fondateur du label discographique Parati, qui vient de publier une version absolument passionnante de ce chef-d'œuvre absolu de la musique, Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Bonjour Bruno Procopio.
Bonjour.
Rappelons à nos auditeurs que vous êtes franco-brésilien. Après avoir étudié au CNSM de Paris dans les classes de Christophe Rousset et de Pierre Antaille, vous développez une très belle carrière internationale de chef d'orchestre et de claveciniste. Parmi vos enregistrements, citons l'intégrale des partitas et des sonates pour viol de gambe et clavecin et le concerto italien de Jean-Sébastien Bach, l'intégrale des pièces de clavecin en concert de Rameau et des œuvres sacrées du luso-brésilien Marcos Portugal, le compositeur le plus important de la période coloniale et impériale brésilienne. Vous êtes fréquemment invité à diriger l'orchestre symphonique Simon Bolivar du Venezuela, avec lequel vous avez enregistré le disque Rameau in Caracas en 2022, le premier album du jeune orchestre Rameau, Guerre et Paix volume 1, sous votre direction Bruno Procopio et sous votre label Parati. Mais aujourd'hui, nous allons parler ensemble de votre nouveau disque, le 10e pour votre label, consacré à cet Everest de la musique, les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Rappelons à nos auditeurs que Jean-Sébastien Bach a composé ce chef-d'œuvre du clavier en 1741 et son nom fait référence à l'un de ses élèves, un brillant claveciniste du nom de Theophilus Goldberg, chargé de jouer et de rejouer de nuit les Variations pour le comte Kaiserling, un passionné de musique mais totalement insomniaque. Une première question, Bruno. Pourquoi cette nouvelle version des Variations Goldberg? Il y en a tellement au clavecin, au piano, avec tous les noms possibles. Alors pourquoi cette nouvelle version aujourd'hui?
Tout d'abord pour me faire plaisir.
C'est donc, très important,
c'est
ça.
C'est très important. Bon, j'avais fait d'autres disques Bach, et quoi faire d'autre quand on a fait l'intégrale des partitas? Il faut se lancer sur des choses audacieuses. J'ai côtoyé cette œuvre depuis des années, je pensais que c'était le moment. J'ai fait ça sur mon clavecin, et bon, je pense que c'est une œuvre qu'il faut faire à un moment donné quand on est claveciniste.
Alors, les clavecinistes, il y en a eu beaucoup depuis Wanda Landowska à Pierre Antaille, votre mentor, votre professeur, en passant par Scott Ross et même le jazzman Keith Jarrett.
Bien sûr, qui d'ailleurs j'aime beaucoup sa version.
Très intéressante.
Très intéressante, oui.
C'est vrai.
Absolument.
Alors, expliquez-nous comment sont construites les variations Goldberg.
Variation, c'est un grand mot pour des variations qui ne sont pas vraiment des variations comme on l'entendrait dans la musique romantique, parce que il prend un schéma harmonique et tout simplement il va composer des pièces variées sur le même schéma harmonique, la même quantité de mesures, évidemment en passant par comme toujours par un carcan polyphonique. Donc si vous voulez, on peut pas retrouver la même thématique, le même thème, c'est tout simplement c'est la même tonalité, la même quantité de mesures sur des œuvres variées qui peuvent s'enchaîner tout simplement.
Alors est-ce qu'on peut dire que Bach dans cette œuvre manie formidablement sa science du contrepoint?
Toujours, de toute façon, quand il fait à deux voix, c'est déjà du contrepoint. Donc parler de Bach, c'est justement parler de contrepoint, mais c'est tellement une évidence que je ne pense même pas au contrepoint. Quand je joue son œuvre, je dis qu'est-ce qu'elle dégage en plus, quelle est la deuxième lecture, quel est le parfum de cette musique, en sachant que de toute façon, ça commence par une essence qui est très savante, qui est le contrepoint.
Alors, ça commence aussi tout simplement par une aria qu'on va écouter, puisque c'est le début, c'est le thème sur lequel ensuite il y aura des variations, peut-être entre guillemets. Oui, donc, on vous écoute, donc sous vos doigts, l'aria des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. C'était l'aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par notre invité Bruno Procopio. Où et dans quelles conditions avez-vous enregistré ce disque, Bruno?
C'est très difficile de lancer un projet de disque pour différentes raisons. D'abord acoustique, après bruit extérieur. Donc c'est vraiment pas évident. J'avais plusieurs solutions, parce qu'on réalise quand même une trentaine de productions par an au sein du label. Mais j'ai eu la brillante idée de rentrer en contact avec la Fondation Royaumont, qui m'ont très bien accueilli. Donc, ils ont deux salles destinées à des enregistrements, donc au rez-de-chaussée, comme la bibliothèque du premier étage. Et là, l'acoustique était parfaite, il n'y avait pas de bruit, et l'accueil était très généreux. J'aurais dû les avoir demandés bien avant. Donc, je suis très content d'avoir fait là-bas.
C'est un endroit absolument magnifique qui se trouve dans notre département du Val-d'Oise.
Exactement.
Un lieu magique.
C'est ça, exactement ça.
Création par Saint-Louis. Ça fait rêver. L'histoire rejoint la musique ou la musique rejoint
l'histoire. C'est un haut lieu de la culture et toute l'année.
Absolument. Alors, quelle est votre conception de cette œuvre qui est d'une durée de plus d'une heure et qui, pendant longtemps, a semblé intimidante aux claveciniste comme d'ailleurs aux pianiste?
Elle est tout à fait intimidante à nos jours. Hein. Le phénomène n'a pas passé. C'est très compliqué parce que ce sont de toutes petites pièces qui durent 2 minutes, 3 minutes, pas plus que ça. Et l'œuvre dure plus qu'une heure. Enfin, ça peut durer même 80, 90 minutes pour certains. Donc la problématique est celle-là. Comment d'abord on joue certaines pièces qui sont très petites et parfois extrêmement difficiles, et comment agencer le bloc, ça veut dire le tout. Je pense que déjà il faut bien connaître chaque pièce en séparé, mais après il faut essayer de le mettre ensemble. Ça veut dire il faut trouver une allure globale pour permettre à l'auditeur d'écouter l'œuvre. C'est que Bach, d'une manière générale, quand on pense par exemple au prélude ou l'art de la fugue, ça n'était pas conçu pour jouer d'un seul bloc, et peut-être les variations de Goldberg non plus. Donc c'est ça toute la difficulté. C'est que, est-ce qu'à l'époque on l'a joué? En tout cas, ce qu'on sait de l'époque, c'est qu'il faisait jouer son Goldberg des extraits. Je ne vais pas tout. Donc, du coup, c'est ça la problématique. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu tant d'années pour pouvoir imaginer comment faire les blocs.
Alors, est-ce que vous faites partie des inconditionnels de Glenn Gould, puisque vous savez qu'il a fait deux enregistrements, l'un en 1955, l'autre en 1981, qui est en quelque sorte, ou qui a été en quelque sorte, un peu gravé dans le marbre?
Je ne le suis pas. J'essaie de m'y dégager justement de cette aura qui était très importante pour peut-être mettre l'œuvre dans le goût du public et faire en sorte qu'on puisse la programmer. Mais je ne pense pas aujourd'hui que ce soit une référence à plusieurs égards. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait un avis historique des choses. Et quand on est claveciniste, malheureusement et heureusement, on va plutôt vers le côté historique des choses pour commencer un chemin. Donc c'est plutôt autre chose. J'aime bien sa version des années 55, vous avez dit
55,
qui est en mono. Je trouve ça plutôt très bien. Par contre, la deuxième, qui est finalement la référence et qui est peut-être le disque, peut-être la musique classique le plus vendu au monde, plutôt difficile à écouter, extrêmement lente et très maniérée. En tout cas, quand on étudie du clavecin et la musique historiquement informée, je dirais que c'est plutôt à contre-pied.
Alors, vous avez choisi justement des tempi qui sont beaucoup plus rapides que ceux de Glenn Gould dans sa version de 1981.
Oui, mais sa version de 55, il est plutôt allant. Je pense qu'il était plutôt jovial à ce moment-là. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut aborder les choses comme ça. La musique de Bach, elle est truffée, bien que très savante et polyphonique, elle est truffée de caractères de danse. Et le côté léger doit s'y dégager. Donc,
n'était pas un homme austère, d'ailleurs.
Je ne sais pas s'il était austère ou pas austère, mais en tout cas...
Il travaillait beaucoup et il avait une vie familiale intense.
Oui, mais en tout cas, dans sa musique, il y a plusieurs couches. Et peut-être la première couche visible, c'est celle du côté savant et polyphonique, mais la deuxième couche, qui est pour moi peut-être la plus importante, c'est, comme toute la musique du XVIIIe siècle, elle est basée sur des caractères de danse. Donc si on joue ça extrêmement lentement et désincarné, donc le deuxième caractère qui devrait être pour moi peut-être le plus important, qui est le côté dansant, ne s'y dégage pas.
Ça, c'est certain. Alors, vous aviez évoqué tout à l'heure le fait de pouvoir grouper justement certains des thèmes ou certaines des variations. On va tout de suite en écouter 3 et vous nous expliquerez en quoi on pouvait les grouper. On va écouter donc 3 pièces, les variations 2, 3 et 4, extraites des variations Goldberg, sous les doigts de notre invité, le claveciniste Bruno Procopio.
Thank you.
Nous écoutions les variations 2, 3 et 4, extraites des variations Goldberg de Bach, par notre invité, le claveciniste et chef d'orchestre, Bruno Procopio. Alors, vous avez souhaité grouper ces trois pièces. Pour quelle raison, Bruno ?
Parce qu'en regardant la partition, j'essayais en tout cas de bien regarder la partition pour pouvoir avoir peut-être un avis neuf, parce que toutes les réponses se trouvent dedans et non à l'extérieur par l'interprétation notamment de Glenn Gould ou d'autres personnes. Donc en regardant, je remarquais quelque chose que je n'avais pas remarqué, en tout cas mes professeurs ne me l'avaient pas signalé, que certaines pièces finissent par des points d'orgue et d'autres pas. Et donc j'avais déjà une volonté naturelle d'enchaîner les pièces par des tactus similaires, par des vitesses similaires, qui faisaient peut-être du simple double, mais qui gardaient à peu près le même tactus, la même pulsation. Et je me suis rendu compte que justement ces pièces-là, qui me semblaient naturelles de regrouper, n'avaient pas de point d'orgue entre elles. Et certaines en avaient. Donc quand même, c'est un signal extrêmement précis. Donc du coup, par ces moyens-là, j'ai pu regrouper les pièces. Vous voyez, ça paraît révélateur, mais c'était extrêmement simple. Tout simplement, j'ai regardé la fin des pièces.
Regardez la partition.
Tout simplement.
Alors, est-ce qu'on peut dire, une autre question, que Bach jette les fondements de la grande variation, la variation romantique qui a été illustrée au siècle suivant par Beethoven ou Brahms ?
Je dirais pas. Non, parce que finalement, il n'a pas fait d'autres variations, en tout cas de cette longueur-là. Et en tout cas, tout ce qui était repris au 19e siècle, qui commence par Mozart, Haydn, on va dire cette génération classique, prend d'autres schémas. Ils sont plutôt dans le goût italien, ça veut dire qu'il y a une mélodie assez simple et on va dire traçable, chantable très facilement, et qui tout simplement, ils l'embellissent par des variations qui est de l'ordre de l'embellissement, de l'ornement. Et Bach, en tout cas, pour sa grande variation, qui sont les Goldberg, il n'utilise pas du tout le même procédé. Donc, il n'est pas du tout dans la mouvance qui sera le socle de la musique classique.
Eh bien, c'est très clair. On va poursuivre avec un autre exemple, justement, de ce que vous nous disiez tout à l'heure avec le fait de grouper certaines de ces variations. Avec les variations 18, 19 et 20, donc ce sera par vous qui êtes notre guide sur IDFM Radio, notre guide dans les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, Bruno Procopio.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach sur IDFM Radio, 18, 19e et 20e variation, extraite des variations Goldberg par notre invité Bruno Procopio. Bruno, est-ce que vous les avez déjà données intégralement au concert, ces variations Goldberg ?
Oui, et c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut se concentrer pendant plus d'une heure. Et c'est ça toute la problématique, c'est que la deuxième œuvre la plus importante, on va dire, pour nous, sont les partitas où j'ai commencé à donner à partir de 17-18 ans. Mais une partita la plus longue dure 25 minutes. Là, on est en train de parler de 70 minutes. Donc ça, pour moi, la plus grande difficulté, c'est ça. C'est rester concentré et vivant pendant 1h10. C'est très difficile.
Surtout quand, par hasard, il y a ce genre de petit instrument, les iPhones qui se mettent à sonner.
Ah bah si, avec ça, ça aurait été beau. Le concert, c'est une aventure.
Ça, j'en suis sûr. Alors justement, le concert est une aventure. Est-ce que vous avez des dates à donner à nos auditeurs ?
Des dates, oui. Donc, le prochain week-end, je serai à Lisbonne pour un récital. Après, justement, je pars au mois de février. Là, du coup, j'ai fait une tournée dans tout le Brésil avec les variations Goldberg, vous voyez.
Ah,
donc là, du coup, parlant d'aventure, ça va être une vraie aventure, en tout cas concernant...
Donc, vous serez à Rio, à São Paulo.
Rio, São Paulo, plusieurs villes du Nord-Est, l'intérieur du pays. Mm-hmm. Je crains sur les clefs 5 que je vais rencontrer.
Ah, certes. Mais enfin, vous serez là et je pense que le public sera ravi d'entendre ces variations Goldberg au clavecin. Je pense qu'il ne doit pas avoir tellement l'habitude de les écouter.
C'est sûr.
Vous serez un guide pour les Brésiliens.
Et même dans les grandes villes, c'est une œuvre, en tout cas, selon les organisateurs, qui est extrêmement peu donnée.
Alors, vous avez des projets aussi autour de ce jeune orchestre Rameau que j'évoquais en présentant notre entretien. Quels sont-ils, ces projets ?
Le projet est très ambitieux parce que ça réunit des musiciens qui viennent de toutes parts. Donc la dernière séance, il y avait 22 nationalités représentées, des musiciens qui ont leur premier prix dans des grandes institutions européennes. On fait ça une seule fois par an. Donc on vient de faire la deuxième session avec le partenariat de l'Opéra du Grand Avignon. La prochaine, c'est l'an prochain, toujours pour faire des œuvres inédites qui sont restaurées pour nous.
Et là aussi, c'est une aventure.
Ah bah ça, c'est une très grosse aventure parce que ça réunit plusieurs aventures. Ça veut dire déjà sélectionner, les faire venir, jouer des partitions inédites, faire des enregistrements et surtout, la plus grande aventure qui commence désormais, c'est faire en sorte qu'ils puissent perdurer.
Et notamment une question de financement.
Ça reste un des grands problèmes. Un orchestre symphonique est coûteux. Réunir des grands musiciens du monde entier, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais je reste, à l'attente que des grandes institutions françaises puissent honorer peut-être le plus grand compositeur du baroque français.
Mais écoutez, c'est dit, il fallait le dire, je suis ravi que vous l'ayez fait.
Avec plaisir.
Au micro d'IDFM Radio. Avant de nous quitter, Bruno Procopio, nous allons donner un nouvel exemple à nos auditeurs de votre conception de ce chef-d'œuvre avec deux des dernières variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, les variations 28 et 29. C'était sur IDFM Radio, Jean-Sébastien Bach. Notre invité, Bruno Procopio, jouait deux des variations Goldberg, extraites de son dernier enregistrement, proposant à l'auditeur une nouvelle respiration dans une interprétation personnelle et très inspirée de ce chef-d'œuvre, un disque remarquable paru sous le label Parati. Merci Bruno Procopio, bonne journée.
Merci beaucoup.
Revenez nous voir très vite sur IDFM Radio pour nous parler notamment de votre ambitieux et magnifique projet autour de la musique de Rameau.
Avec grand plaisir.
Sans transition, passons de Jean-Sébastien Bach au jazz, ce qui évoquera peut-être aux plus jeunes d'entre nous les disques vinyles de Jacques Loussier et des Swingle Singers, Jazz Sébastien Bach. Nous sommes maintenant en duplex avec le brillant pianiste de jazz Paul Lai, qui nous présente son dernier album Blue in Green, Tribute to Bill Evans, qui sortira dans quelques jours, le 2 décembre, sous le nouveau label Scala Music. Bonjour Paul Lai.
Bonjour Christophe.
Vous êtes en partance pour Nantes, où vous vous produisez ce soir, je crois.
Oui, tout à fait. Je joue ce soir pour la dans le cadre de la folle journée de Nantes, un concert de présentation du festival qui a lieu dans deux petits mois.
Parfait, c'est très important et c'est un magnifique festival.
Exactement.
On rencontre un public très large.
Effectivement, j'ai la chance d'être de faire partie des habitués. Voilà, donc d'où le fait que je sois en partance, voilà, à Montparnasse.
Et vous serez au milieu de musiciens classiques d'ailleurs dans le cadre de la folle journée.
Oui, tout à fait. Mais pour la prochaine, donc pour la session de janvier-février, le thème c'est l'ode à la nuit, et je vais proposer du coup des relectures de magnifiques ballades et blues des années 30, 40, 50, mais l'intitulé du spectacle, enfin du programme, va s'appeler Roundabout Midnight, et je serai très heureux de partager la scène avec mon grand ami Eric Lelanne, merveilleux trompettiste.
Magnifique, oui.
Et Clemens van der justement, Clemens van der Fien de mon ancien trio, enfin de mon trio actuel, justement, Clemens van der Fien, mon ami contrebassiste de chœur avec qui je travaille depuis presque 10 ans et dans lequel je le retrouve avec Dre Palmer justement pour cet album qui sort dans quelques semaines autour de Bill Evans.
Alors après Full Solo en 2021, qui était consacré à des arrangements pour le piano jazz d'œuvres de Beethoven avec des bagatelles, l'hymne à la joie, la sonate Claire de Lune, la 7e symphonie, la lettre à Élise, avec des compositions originales. Et vous sortez, c'est votre 7e album, Blue in Green, un hommage à Bill Evans. Alors une question, en quoi est-ce que Bill Evans a révolutionné l'esthétique du piano jazz en solo et peut-être encore plus en trio?
Alors, effectivement, c'est une des icônes, un des personnages essentiels du piano jazz. Je dirais, avant tout, la science harmonique qu'il est allé puiser dans la littérature classique, bien évidemment. Je pense à des compositeurs qu'il a énormément étudiés, comme Scriabin ou Ravel, Prokofiev, Bartok. Il a su intelligemment intégrer au mode harmonique, on va dire, du jazz. Et c'était l'un des pianistes qui avait justement l'un des premiers à avoir une très grande connaissance de la musique classique et qu'il avait justement étudié. Et de fait, il nous propose des paysages harmoniques sonores tout à fait nouveaux, mais évidemment en lien avec l'histoire du jazz qui le précède. Donc c'est l'un des premiers, en tout cas pour le piano jazz, à ouvrir l'ère moderne du piano jazz, parce qu'il a su faire magnifiquement la synthèse entre le développement harmonique de la musique du 20e siècle classique et ce que le jazz développait déjà de son côté. En fait, on parle beaucoup de Bill Evans pour l'harmonie, mais c'est aussi un excellent rythmicien, et il a une manière de scander ses phrases, d'improviser de manière aussi tout à fait nouvelle, et il a un swing vraiment à lui, et la manière dont il dessine ses phrases lorsqu'il improvise proviennent notamment de, bon, de ses aînés, mais je pense à Wynton Kelly, par exemple, justement pianiste que l'on retrouve dans le Kind of Blue de Miles Davis, mais aussi un grand pianiste, mais un peu plus méconnu du grand public, mais qui s'appelait Lenny Tristano.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est un pianiste dont il revendique beaucoup l'influence. Donc voilà, pour ce qui correspond à ce qu'il amène dans le piano jazz, voilà, c'est plutôt la synthèse, voilà, entre la musique classique et les explorations des pianistes de jazz de l'époque. Il en fait une magnifique synthèse. Et puis effectivement, ce qu'il révolutionne particulièrement ensuite l'histoire du piano jazz, car pour synthétiser, pour essayer d'être assez clair, en général jusqu'alors, traditionnellement, l'histoire du piano jazz se composait de la manière suivante. Enfin, le mode de jeu, si on pense à Oscar Peterson, même avant Nat King Cole, le bassiste et le batteur avaient une fonction bien précise, c'était de jouer vraiment le tempo de manière très claire.
Oui.
Et l'harmonie, et le pianiste jouait le thème et improvisait sur cette base harmonico-rythmique très claire, très limpide.
Oui.
Très swingante. Et ce que Bill Evans amène de manière magnifique, c'est un bouleversement des rôles et des fonctions. Il se trouve que les trois musiciens vont dialoguer de manière tout à fait nouvelle, où le rôle, les fonctions sont bouleversées, et le bassiste ne va plus nécessairement jouer une walking bass, donc une ligne de basse immuable en noir, mais il va prendre des libertés. Il y a une toute nouvelle interaction qui se produit entre le bassiste, le pianiste évidemment, et le batteur qui normalement, on va dire, soutenait rythmiquement, scandait les noirs, les croches, le swing, mais en fait ce qu'il amène avec son trio, notamment avec Scott LaFaro et Paul Moncian, c'est que justement Paul Moncian, le batteur, va colorer tout autant que tenir la base rythmique. Donc c'est une véritable révolution qui a lieu dans
C'est ça, et ça s'est passé en juin 1961 au Village Vanguard de New York. Et alors notamment, il y a un thème fameux, Alice in Wonderland. Comme l'écrit Yvan Amar dans les notes de présentation de votre album, notre âme rajeunit de 60 ans. Mais nous allons écouter votre trio, Paul, et non pas celui de Bill. Alice in Wonderland par le trio de Paul Lai, un extrait d'un formidable disque qui sort chez Scala Music. Quels sont vos deux complices dans ce trio?
Alors, ce sont des partenaires de longue date. Ils s'appellent donc Clement van der Fijn à la contrebasse, qui est hollandais, qui est à Amsterdam, et Dre Palmer, grand batteur belge de Bruxelles, avec lequel je travaille depuis plus de 8 ans. Et pour la petite histoire, il y a une petite vingtaine d'années, j'étais étudiant au CNFM, au Conservatoire supérieur de Paris. Et à l'époque, Dre Palmer était professeur. Et je l'ai rencontré comme cela, qui a été mon professeur d'abord. Et on a, évidemment, dans ce cadre-là, très rapidement joué ensemble dans le cadre des cours. Et ça a été une sorte de bouleversement pour moi de jouer avec lui, parce que ça revient un peu, justement, au sujet dont on parle, au sujet de Bill Evans, c'est de bouleverser un peu les rôles. C'est que dès que j'ai commencé à jouer avec lui en cours, je n'étais plus capable de jouer ce que j'avais prévu la seconde avant, lorsqu'on improvise. Et il n'y était pas les temps là où je pensais qu'il allait les mettre. Donc, et ça m'a permis de développer, grâce à lui, mes oreilles, de changer totalement la manière d'écouter, parce que là, on parle de jazz, donc... une composante essentielle de jazz, évidemment, c'est l'improvisation et donc l'interaction collective, mutuelle, spontanée. Et donc, j'étais habitué au mode de jeu plutôt traditionnel de basse batterie qui assure quelque chose de très... un accompagnement très clair, comme on a parlé, très limpide, harmonico-rythmique, oui. Mais avec Dre, justement, il bouleverse cela, un peu dans l'esprit de Scott Lafaro à l'époque. Et donc, j'ai tout de suite adoré son jeu, sa manière de tout simplement d'interagir. Et ça m'a permis, moi, de changer mes habitudes. Et c'est devenu, voilà, un ami. Et puis, je lui ai demandé, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse des choses ensemble. Quel contrebassiste avec qui tu aimes bien jouer? Et il m'a parlé de Clement, avec qui jouait déjà pas mal, aux Pays-Bas et puis en Belgique. Et donc on s'est retrouvés, on a répété, on a enregistré deux disques déjà, et c'est une aventure et une amitié de 8 ans, et donc je suis ravi de pouvoir les retrouver sur ce premier disque enregistré live autour de Bill Evans, car effectivement c'est le premier disque que j'ose sortir ici d'un concert.
Alors justement, il y aura ce concert de lancement de votre album qui sera le jeudi 8 décembre à 21h30 à la Scala. C'est une salle superbe qui se situe au métro Strasbourg-Saint-Denis. Et il y a dans ce nouveau lieu musical deux salles de théâtre ou de concert et un excellent restaurant. Il y a vraiment tout pour passer une soirée formidable. N'est-ce pas, Paul Lai?
Oui, effectivement, c'est un merveilleux lieu. J'ai la chance d'y être en résidence depuis presque une petite année. On y mange très bien, comme vous dites. Et puis l'équipe, nous, en tout cas moi en tant qu'artiste, me soutient particulièrement. C'est un complexe de deux salles qui, comme vous dites, qui propose de nombreuses pièces de théâtre, mais aussi de la musique classique et du jazz. Et voilà, je suis très heureux de faire partie de cette famille maintenant. Et effectivement, ils ont un label tout nouveau et dont ils sortent les premiers disques et dont je fais partie pour la partie jazz.
Alors on va saluer Rodolphe Bruno Boulmier, qui est le directeur artistique. Et vraiment, c'est l'homme par qui tout cela peut arriver. Écoutons un second extrait de votre disque, ce sera Periscope, une composition de jeunesse de Bill Evans, évoquant le bonheur insouciant de son amour avec l'une de ses premières compagnes.
Thank you.
Après ce thème moins connu, Periscope, on va parler de ce très fameux Blue in Green qui donne le titre à votre album. Alors pourquoi ce titre, Paul Lai?
Parce que déjà je trouve ce titre très poétique. J'ai toujours considéré la musique, enfin c'est comme ça que je la vois, par des couleurs. Comme je crois le penser un de mes grands, mes aînés que j'écoutais dans l'adolescent, qui était Michel Petrucciani, il pensait aussi beaucoup en couleurs, et c'est vrai que moi, c'est naturellement, un accord m'évoque une réelle couleur. Donc, ce titre déjà est très poétique pour moi, et puis c'est effectivement un titre phare d'un album, l'un des albums que j'ai le plus écouté de Miles Davis, et donc le fameux Kind of Blue, qui est un hit en termes de vente.
Et pas seulement de vente, en termes artistiques aussi.
C'est ce que je veux dire.
Ah oui, absolument. C'est vraiment un titre extraordinaire. Hein, vraiment avec Bill Evans, avec Miles Davis, avec John Coltrane, Cannonball Adderley et.
Et puis il y a Jimmy Cobb à la batterie et Paul Chambers à la contrebasse. Et puis on a aussi Wynton Kelly qui partage le piano avec Bill Evans.
Voilà, c'est vraiment l'un des plus beaux disques de jazz. Eh bien, on va écouter le trio de Paul Lai dans Blue in Green. Green par le trio de Paul Lai, un extrait de son magnifique disque Tribute to Bill Evans, vraiment l'un des plus beaux disques de jazz de l'année. Merci beaucoup Paul Lai.
Merci Christophe pour votre invitation.
Bonne journée et très bon concert à Nantes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à 11h pour une nouvelle balade musicale. Vous pourrez réécouter cette émission ou la podcaster sur le site de la radio idfm.fr à la rubrique Balade musicale. Merci à Francky à la technique et bien sûr, restez à l'écoute des programmes d'IDFM avec maintenant les informations.